Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro et Nicolas Swartman à la technique. En ce mardi froid, un froid nordique, il faut le dire. Hein. Voilà, il faut bien se protéger ici à Montréal et dans le reste de la belle province d'ailleurs, c'est pas seulement ici à Montréal. Donc voilà, qu'on soit frileux ou pas, c'est pas la période de traîner dehors. En première partie d'émission, voilà, pas d'invité, pas de chroniqueur, j'ai quelques sujets pour vous. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Sarah Rousseau-Garrido, qui est la directrice exécutive du CIREC. Vous allez savoir ce que c'est. Ça, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services. C'est tout un système mis en place par deux universités. Voilà, pour une manière pour nous un peu de démocratiser, pas seulement que ça reste là-bas dans les enceintes des universités, mais pour que monsieur et madame, tout le monde puisse savoir ce que c'est monsieur et madame font là-bas, ces chercheurs, ces chercheuses font là-bas dans les murs de ces universités-là. Alors on va, comme d'habitude, on part en musique. Avec qui? Avec Moka. C'est un duo qui est composé de Marie-Anne Tessier et de Jeanne Gagné, Flamme.
Ils veulent te changer. Ils t'ont dit tu peux pas tout faire. Quand tous tes repères partent en fumée, dis-toi qu'il y a rien d'autre à faire. Il faut recommencer l'ego à zéro. Y a un bloc qui manque mais tu sais plus trop. Ton visage en la glace, ton sang se fiche. Pourquoi être fin te donne le vertige? Oh. Mélange d'hormones s'est invité. Un cocktail molotov avec tes pensées. Ton corps une œuvre d'art sur emballé. À croire que nos cris n'ont rien changé. Il faut recommencer l'ego à zéro. Y'a un bloc qui manque mais tu sais plus trop. Ton visage en la glace, ton sang se fiche. Pourquoi être femme te donne le vertige? Oh.
C'était le duo Moka composé de Marie-Anne Tessier et Jeanne Gagné, Flamme. Voilà, comme je l'avais dit en première partie d'émission, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de chroniqueur demain. Mais on a une invitée en deuxième partie d'émission. Et puis, je vais commencer par les quelques matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2022. Et qui a gagné hier? Bon, j'en ai parlé hier. Pour ceux qui ont gagné aujourd'hui, le Sénégal. Le Sénégal a battu le Zimbabwe. Il y a la Guinée qui a battu le Malawi aussi. Donc, c'est dans le groupe A, il y a le Cameroun qui est en tête, suivi du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui a battu l'Éthiopie. Le Cameroun qui a battu le Burkina Faso. 3 points là-bas de ce côté. Et puis, dans le groupe B, c'est le Sénégal et la Guinée qui sont en tête avec 3 points. Et le Malawi et le Zimbabwe qui traînent là-bas avec 0 point. Quand tu perds un match, tu n'as pas de points. Mais quand tu fais un match nul, tu as au moins 1 point. Et dans le groupe C, il y a le Maroc qui a battu le Ghana. Le Gabon qui a battu les Comores. Donc, c'est le Maroc et le Ghana qui sont en tête de 3 points chacune pour ces équipes. Et puis, le Ghana et les Comores ont 0 point. Et dans le groupe D, et puisque le Nigeria a battu l'Égypte, le Nigeria en tête avec 3 points, on attend le deuxième match pour savoir qui va seconder au Nigeria, c'est-à-dire le Soudan contre la Guinée-Bissau. Voilà. Et puis, demain, dans le groupe dans le groupe E, il y a l'Algérie et la Sierra Leone qui ont fait match nul 1-1. On attend le match de demain, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, pour savoir qui va prendre la tête de ce groupe E. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. De temps en temps, comme ça, je vous donne des petites infos. C'est tout ce que je peux faire, pas plus. Voilà, je vois Nicolas qui revue sa tête là-bas. Ouais, les infos, juste pour rester un peu à jour. C'est tout, voilà, je fais la mise à jour chaque jour comme ça. Et puis, mais il y a une bonne nouvelle quand même. Non, oui, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle de greffe du cœur. La taille du cœur du porc et son anatomie se prêtent assez bien au remplacement du cœur humain. Ah oui, c'est tout nouveau. Les équipes médicales de l'école de médecine de l'Université de Maryland qui viennent de faire une transplantation cardiaque de David Bennett, premier greffé vivant d'un cœur de porc, le 7 janvier 2022. Et il continue de vivre. C'est-à-dire que le corps humain n'a pas rejeté le cœur d'un porc. Mais attention, ils n'ont pas sorti le cœur du porc et puis ils l'ont mis dans le cœur de l'humain. Et ils ont travaillé un peu là-dessus. Voilà. Donc, ces chirurgiens américains à l'Université du Maryland qui ont réussi à transplanter ce cœur issu d'un porc génétiquement. Ils ont travaillé génétiquement d'abord. Voilà, avant de modifier aussi ce patient-là. Et puis, bon, c'est une première mondiale, ça ne s'est jamais fait. Voilà. Ils ont déjà fait des choses avec peut-être de la peau d'un animal pour le cœur humain, mais le cœur, non, d'un animal dans le cœur. Tu sais qu'en France, il y a une compagnie qui fabrique des cœurs artificiels. Mais il ne faut pas se mettre à comparer les deux. Attention. C'est deux systèmes complètement différents. Alors, donc l'opération a permis de montrer que, pour la première fois, qu'un cœur d'animal pouvait continuer à fonctionner à l'intérieur d'un humain, sans rejet immédiat. Aux États-Unis, par exemple, il y a plus de 6000 personnes qui auraient besoin d'une greffe qui meurent chaque année. Donc, cette première mondiale va permettre de fournir une nouvelle option essentielle aux patients dans le futur. Voilà, ça c'est très important, c'est bien accueilli par la communauté scientifique qui se dit « Waouh, bravo, on pourra aller de l'avant comme ça ». Ça ne veut pas dire qu'il faut courir après tous les porcs du monde entier là, pour aller soustraire le cœur, travailler génétiquement et puis aller remplacer le cœur des humains qui sont en demande, qui sont en attente. Non, c'est pas ça le but. C'est pour dire, en plus de ce que cette compagnie française fait pour le cœur artificiel, qui marche aussi, est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions pour pouvoir pallier à ce problème qui est grandissant, parce qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui sont en attente de cœur. Voilà. On ne trouve pas les cœurs comme ça dans les coins de rue, là. Voilà, tout de suite, là, je le dis. Et puis, ça, quand le football encore, là, je reviens là-dessus, parce qu'il y a des pays qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar, là, 2022. Il y a des pays comme l'Argentine, comme le Brésil. Donc leurs équipes nationales là-bas ont décidé de ne pas leur faire appel pour les matchs, les derniers matchs qui restent parce que ces pays sont déjà qualifié. Donc il y a Neymar du Paris Saint-Germain qui ne sera pas appelé par l'équipe du Brésil. Et il y a Messi qui ne sera pas non plus appelé par l'Argentine parce que l'Argentine est déjà qualifiée. Ils se sont dit, mais on est déjà qualifié, on ne peut pas faire déplacer les grands quand même. Il faut payer billets d'avion, les nourrir, les loger, tout ça. On peut économiser cet argent pour ceux qui sont sur place là-dedans. Faire jouer les joueurs qui sont sur place, qui n'ont pas la chance de jouer quand ces grands étaient dans l'équipe. Alors, je pense que c'est une bonne idée, pourquoi pas. Ouais, c'est une bonne idée comme ça. On fait une petite pause musicale ? Oui, on va écouter... Astrid de Williamson, Hide in Your Heart. Voilà, merci Astrid Williamson, Hide in Your Heart. Voilà, avant de parler de quelque chose d'autre, Je vais parler de ce joueur danois, ouais, ce joueur danois qui avait un arrêt cardiaque en plein match de l'Euro 2020. Oui, c'était le grand meneur de jeu de l'équipe nationale danoise d'ailleurs. Il avait gardé le silence jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à dernièrement, il a fait une sortie, c'était le 4 janvier, oui, pour remercier ceux qui l'ont soutenu d'ailleurs dans le monde entier, les gens de son pays, les gens du monde entier qui l'ont soutenu. Donc, on s'interroge désormais sur ses chances de jouer lors de la Coupe du Monde au Qatar, parce que le Danemark est qualifié aussi pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022, là, cette année. Donc, tout le Danemark a dû retenir son souffle, ça il faut le dire, donc plus de 200 jours pour connaître le sort de Christian Eriksen. Ça me fait penser au téléphone mobile Ericsson. C'est dedans aussi, Ericsson. Voilà. En tant qu'athlète, voilà, c'est vraiment. Mais l'attente en valait la peine. Parce que le message est le meilleur qui soit, quoi, d'ailleurs. Et tout le monde lui dit bravo d'avoir lutté, d'avoir combattu, tout ça. Et puis, il a décidé de poursuivre sa carrière. Hein, donc, malgré le pacemaker qu'on lui a implanté, c'est un problème de cœur. Il faut lui mettre un pacemaker. Voilà. Après l'accident cardiaque qui est survenu. C'était le 12 juin 2000. Ouais. 12 juin dernier là-bas, 2021. Voilà, donc, il a marqué au total 36 buts en 109 sélections en équipe nationale. Voilà, donc le moment est venu d'attirer maintenant de nouveau l'attention pour ses qualités sportives et non plus en raison de son état de santé. Ce qu'on dit. Alors, il se sent bien. Il a repris ses entraînements. Il est en train de se retaper tout doucement. Il ne faut pas le voir comme un malade. Voilà. En gros, c'est le message qui m'est passé. Un message de remerciement. Et puis, ne pas le voir comme quelqu'un de convalescent ou bien de malade. Il va bien. C'est ça le plus important. De penser plus à sa carrière, de l'encourager beaucoup plus à remettre les pieds sur le terrain avec ses amis pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Ah, ça va être quelque chose. Quelqu'un qui porte un pacemaker qui se retrouve en pleine Coupe mondiale. Et encore, si le Danemark prend la Coupe, ça va être quelque chose. Alors, je lui souhaite, je lui envoie une corbeille d'énergie positive. Voilà, et puis, c'est vraiment, qu'est-ce qu'il a dit ? Que les gens m'envoient les fleurs parce que j'étais mort pendant 5 minutes. C'est vrai. Ouais. Ce n'est pas ce que je voulais. Un léger sourire aux lèvres quand il a fait sa sortie dernièrement, quoi. À la télévision danoise. Les gens ont pleuré, ils ont vécu pleinement la chose. J'ai eu la chance d'être ici aujourd'hui. Ouais, merci pour les larmes, sincèrement. Ça, c'est... Ouais, dans la conscience collective danoise, ça se passe. Un tel geste était prévisible de la part d'Eriksen. Parce que c'est quelqu'un, il n'empêche que c'est très réconfortant et réjouissant de le voir et de l'entendre à nouveau. Tant son effondrement s'était installé dans la conscience d'une grande majorité de la population danoise. Un accident qui a frappé le monde footballistique. Moi, je lui envoie un gros cœur comme ça, un panier d'énergie positive, et j'espère qu'il va... Si l'entraîneur, si le coach de l'équipe nationale danoise l'aligne, j'espère bien le voir en train de marquer des buts encore, parce que c'est buteur, marquer des buts et de voir même... Le Danemark, en demi-finale, en finale, même remporter cette coupe avec ce joueur qui joue avec un pacemaker. Allez-y, comprendre quelque chose. Voilà, et je lui souhaite bon vent avec le panier d'énergie positive. Voilà quelqu'un qui n'arrête pas d'énerver un peu les journalistes anglais là-bas. Il s'agit bel et bien du Premier ministre Boris Johnson. Alors lui, décidément, il est encore dans la tourmente, hein. Voilà, mais en plein confinement, il continue de faire des fêtes, de rassembler des gens. Voilà. Et à cette époque-là, c'est maintenant que la presse anglaise vient de sortir ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'est passé en mai 2020. Mais il avait déjà été accusé 3 fois. Donc c'est la 4e fois qu'on l'a accusé, qu'il n'a pas respecté. Si on se rappelle bien, il a piqué le virus. Le premier ministre anglais, je me rappelle bien, quand il était à l'hôpital, on a vu ses photos, ses tweets et tout ça. Donc là, la presse britannique ne le laisse pas tranquille. Là. Une nouvelle révélation. Voilà, c'était une fête à Downing Street, en plein confinement, en mai 2020. 40 personnes, alors que durant cette période de confinement, seulement 5 personnes pouvaient se rassembler. Voilà, 5, voilà, si les gens devaient se rassembler ou bien quelque chose comme ça. Alors, il y avait 40 personnes, dont lui et son épouse, et puis d'abord, ils ont partagé un verre dans le jardin du Down Street, mais ils étaient invités par le secrétaire général de la résidence à profiter du beau temps après une difficile période. Oui, d'accord, et pourtant la population en confinement. Monsieur le Premier ministre et sa famille et son épouse font la fête avec d'autres personnes. Ça vient de sourire. Donc, les accusations s'accumulent. C'est la quatrième fois. C'est un peu trop, non? Donc, des accusations à chaque fois réfutées et minimisées par Boris Johnson, comme on le connaît. Il ne va jamais dire que oui, c'est vrai, ça, c'est clair, tel qu'on les connaît. Donc, les familles anglaises victimes de Covid sont furieuses, alors que certaines n'ont même pas pu assister aux funérailles de leurs proches à cette époque-là. C'est ce qui énerve la population, au fait. Quand les politiciens eux-mêmes nous donnent des ordres, et ils ne respectent pas, c'est... Voilà, ce qu'ils disent, ça, je peux comprendre le peuple qu'il ne soit pas content. Donc, c'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures, à ma connaissance. Il faut éviter ça. La numéro 2 de l'opposition, Angela Arena, qui estime que le Premier ministre devrait avoir honte de lui-même, voilà, et qu'il n'est plus légitime à son poste. Il y a une enquête même au sein de Down Street qui est en cours. La police a indiqué ce mardi, aujourd'hui, là, être en contact avec le cabinet du Premier ministre. On verra bien ce qu'ils vont faire avec le Premier ministre britannique parce qu'il n'a pas respecté les consignes données par lui-même. On va en musique pour terminer cette première partie de l'émission.
Yo! Africa, for Africans, a home and a brother, so a man must go home. Yeah! What that lay? What that lay? What that lay? You feeling what that lay? Tell me, oh, you feeling what that lay? Are you feeling angry what that lay? Are you feeling hopeful what that lay? Are you feeling angry what that lay? Are you feeling what that lay?
Monsieur Fontaine, I wanna go home. Oui, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, nous allons revenir avec, je vous reviens avec notre invitée Sarah Russo-Garrido, qui est directrice exécutive du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits et procédés services. Voilà. Voilà. Ça va être quelque chose d'intéressant. Ça concerne tout le monde, hein. Voilà. Pourquoi est-ce que mon ordinateur ne peut plus fonctionner après 4 ans? Ou bien pourquoi est-ce que, oui, mon téléphone cellulaire, après 2 ans, 3 ans, c'est fini, il faut que je le change. Tout ça, c'est ce... Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, Oasis Diop avec la complicité de Ingmar Locazzo, notre invité déjà au bout du fil. Nous allons parler de quelque chose du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services. La directrice exécutive, professeure associée, coordonnatrice de l'analyse sociale, Sarah Russo Garrido est avec nous. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Si je vais bien, merci et vous?
Ça va bien, merci.
Merci à vous. Bonne année à vous d'abord et à vos proches.
Merci, merci beaucoup à vous aussi.
Ouais, merci d'avoir le temps de venir nous, de venir démocratiser un peu, parce que vous les chercheurs, vous les universitaires là, vous êtes quand vous êtes entre vos murs là-bas, vous faites vos travaux. Nous là, monsieur, madame, de tout le monde, on ne sait même pas en gros si on n'est pas tombé sur un article dans un journal. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font entre les quatre murs là-bas de recherche là c'est... Voilà, bon, le but, la raison pour laquelle on vous a dit, c'est pour les 20 ans du CIREG, c'est le Centre international de référence sur le cycle de vie. Les 20 ans, ça fait quand même, c'est pas mal, c'est pas 20 jours, c'est pas 20 semaines, hein, c'est 20 ans quand même que vous travaillez sur différents projets quand même. Hein.
Vraiment, vraiment, depuis 2001, puis le centre a beaucoup évolué à travers le temps. Puis,
oui.
Comme toujours, puis comme depuis le départ, on essaie vraiment de faire la recherche fondamentale, mais aussi de faire beaucoup de recherche appliquée qui est vraiment pertinente pour les acteurs du terrain. Puis de plus en plus,
oui.
On essaye de démocratiser ce qu'on fait, puis
oui,
de diriger beaucoup de notre recherche vers les citoyens.
C'est ça, de vulgariser un peu pour nous faire comprendre un peu au fait qu'est-ce qu'on fait ici chez nous, et puis pour que le peuple puisse, la population civile puisse savoir au moins ce que nous faisons comme travail, comme recherche. Voilà.
Ouais.
Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales de l'Université de Laval, d'une maîtrise en philosophie en développement international à l'Université d'Oxford en Royaume-Uni, et d'une maîtrise en sciences en politique environnementale d'Oxford encore. Alors, je dis bravo. Et depuis 2013, vous avez rejoint l'équipe du CIREG. Et j'ai dit, mais elle a commencé quoi comme coordonnatrice à la recherche pour l'analyse sociale. Et depuis 2019, vous occupez un poste double, ou bien double poste, on peut l'appeler comme on veut, celui de directrice exécutive adjointe et de coordonnatrice de l'analyse sociale. Comment vous portez ces deux chapeaux-là, vous arrivez à marcher?
Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'arrivais à marcher tant où j'étais directrice exécutive adjointe. J'arrivais à faire un peu les deux postes parce que je faisais encore des mandats puis de la recherche en analyse du cycle de vie sociale, puis j'encadrais des étudiants également, tout en prenant des responsabilités à la direction adjointe.
Oui.
Mais depuis la fin décembre, je suis devenue directrice exécutive du centre.
Oui.
Donc, j'essaye de trouver c'est quoi le bon équilibre à avoir entre ces deux rôles-là. C'est sûr que je veux garder un pied encore dans la recherche, dans les projets appliqués en analyse du cycle de vie sociale.
Mm-hmm.
Mais je pense qu'il faut que je trouve un peu l'équilibre avec les nouvelles fonctions que j'occupe maintenant.
OK. Et une petite question un peu bébête, mais qu'est-ce qui vous a attiré vers les recherches?
En fait, moi, c'est vraiment les sujets qu'on traite.
Mm-hmm.
Depuis toujours, pour moi, toutes les thématiques qui ont à voir avec les impacts sociaux et environnementaux de toutes les produits qu'on utilise, les services qu'on utilise, notre vie, quoi, hein, toute notre vie de consommateur, c'est quoi les répercussions de tout ça sur d'autres personnes dans d'autres pays, sur l'environnement, sur les limites de notre planète. Donc, moi, ça, c'est des sujets qui m'ont toujours touchée depuis la première heure.
Oui.
Puis, faire de la recherche, faire des projets sur ces sujets-là, c'est une façon très, très directe, en fait, de traiter de ces éléments-là qui m'ont toujours vraiment... c'est ça, toucher au plus profond de moi-même.
Je pense qu'on
a tous des sujets qui nous interpellent en particulier, puis pour moi, ça a été ça depuis très longtemps.
Oui. Et avant de rejoindre le CREG, vous avez travaillé dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et sur des questions, conditions de travail, des droits et des travailleurs. Très engagé quand même. Et vos activités ont d'abord été au Canada, au sein de la fonction publique fédérale et pas... Après, en tant que conseillère auprès d'organisations syndicales américaines, mais c'est tout un parcours. Et puis, comme coprésidente de l'initiative de la SLC Alliance pour la révision des lignes directives de l'INEP, SCTAC et de l'ASC. Je dis, mais elle n'arrête pas. Sarah, vous n'arrêtez pas.
Tout comme vous, j'en suis sûre.
Oui. Alors, les 20 ans, qu'est-ce que... Oui, 20 ans quand même, c'est beaucoup. Hein?
Ouais.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que ce centre fait au juste, en gros, du CIREC? Ouais. Quelle est la mission du CIREC?
C'est ça. Donc, nous, notre mission, je dirais, c'est vraiment de développer puis de mettre en œuvre des métriques, donc des mesures pour la durabilité.
Oui.
Donc, essayer de mesurer c'est quoi l'impact environnemental, c'est quoi l'impact social.
Oui.
Des produits, des services, des organisations qui nous entourent.
Oui.
Donc, on vise vraiment à répondre à ce défi-là de mesurer l'empreinte.
Oui.
De toutes ces choses-là,
oui.
Pour aider les preneurs de décision à faire des choix éclairés, à décider une trajectoire empruntée pour avoir une production puis une consommation plus durable.
Oui.
C'est vraiment ça ce qu'on fait.
Mm-hmm.
Puis la façon que ça se décline, c'est vraiment avec toute notre équipe de chercheurs, d'étudiants, de professeurs, on fait environ une cinquantaine de personnes.
Oui.
On fait de la recherche, que je dirais la recherche fondamentale. Donc, on développe des méthodologies, on repousse les frontières des connaissances pour arriver à faire les meilleures évaluations en lien avec ces mesures de durabilité qu'on veut faire.
Oui.
Puis, de notre part, on a une équipe qui s'occupe beaucoup plus de tout ce qui est recherche appliquée.
Mm-hmm.
Donc, des mandats qu'on fait à l'externe pour les gouvernements, pour les entreprises qui se posent des questions par rapport à ces thématiques-là.
Oui.
Donc, notre activité-là va plutôt prendre la forme d'un rapport qu'on développe ou développement d'outils pour calculer des empreintes.
Mm-hmm.
On fait de la révision critique d'autres rapports qui sont faits.
Oui.
Etc. Donc, ça se décline de plusieurs façons.
Oui.
Puis je pense que cette façon-là de faire et de la recherche très fondamentale et de la recherche très appliquée de terrain, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Puis pour nous, c'est vraiment dans notre ADN, puis qui nous permet de et tester ce qu'on développe sur le terrain, mais aussi faire remonter les questions que sur le terrain vers la recherche.
Oui.
Pour que la recherche soit le plus concrète et pertinente possible, puis que justement on essaye de se battre un peu contre l'espèce de tour d'ivoire qui a tendance à entourer l'université.
Oui, oui. Avant de faire la petite pause publicité, la petite pause musicale, je vais vous demander, est-ce que c'est facile de négocier avec les preneurs de décision, c'est-à-dire les politiques? Gardez la réponse. On va faire une petite pause musicale. Et puis je vous reviens.
Ça marche.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Voilà.
Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les faibles, y a pas de place pour les regrets. Cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente, je l'étais. et des claques et s'en est bouffé. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. Je sais bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Ah, j'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Ah, tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. Je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, ouais. Quoi qu'il advienne.
Isult, Core, c'est l'étude de la pièce. Le nom de l'artiste, c'est Isult, Y-S-E-U-L-T. Core, le titre de la pièce. Notre invité est toujours avec nous, Sarah Russo-Garrido, directrice exécutive, professeure associée et coordonnatrice de l'analyse sociale. Voilà, c'est les 20 ans du CIREG. Je lui avais demandé avant la petite pause musicale si c'était facile ou bien difficile de, de négocier avec les décideurs, les preneurs de décision, les politiques.
Oui, c'est ça, j'ai eu le temps d'y penser.
Oui. Hein?
peut-être la première chose que je dirais, c'est que... Notre travail, oui, il y a une certaine négociation qui
oui.
se fait,
mmh.
mais je pense que c'est surtout un travail où est-ce que, sur la base de données, d'analyses, on donne des résultats. On
en gros, je vous l'ai dit, est-ce qu'ils vous écoutent souvent? Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux? Est-ce qu'ils se disent, oui, c'est des chercheurs, c'est des chercheurs, c'est des scientifiques, on doit les écouter, on suit ce qu'ils nous disent?
Ouais, non, je comprends ce que vous voulez dire. On ne le sait pas toujours. Hein. La réalité, c'est ça. C'est que nous, on émet des recommandations, on fait des rapports.
Oui.
Quelquefois, on est là aussi pour l'accompagnement après, puis on peut voir qu'est-ce qui se fait sur la base de ce rapport-là.
C'est ça.
Mais des fois aussi, c'est quelque chose qui est opaque. C'est repris par l'entreprise, c'est repris par le gouvernement, c'est réfléchi. On réfléchit des fois pendant longtemps. Puis après, c'est plus difficile de voir le fil, de savoir ben, jusqu'où est-ce que nous, ce qu'on a fait, ça a apporté tel changement ou pas.
Oui.
Donc, c'est ça. Mais dans les meilleurs des cas, bien sûr, on peut voir des prises de décision qui découlent directement des rapports. Mais ça serait de mentir de dire que chaque rapport ou chaque projet qu'on fait est allié à une décision de ce type-là.
OK. Ouais, avant de passer à autre chose, on va parler tout de suite d'analyse de cycle de vie. C'est quoi? Quand on parle analyse de cycle de vie, qui vise à consolider, améliorer, développer un peu, non, pour monsieur et madame, tout le monde qui nous écoute?
Oui, pourquoi pas. Donc, l'analyse du cycle de vie, c'est une méthode qui permet d'évaluer les impacts potentiels, soit environnementaux, soit sociaux, ou même les coûts, qui sont associés à toutes les étapes de la vie d'un produit ou d'un service ou d'un procédé, tout dépendant de ce qu'on étudie. Donc, par cycle de vie, on veut dire toute la vie d'un produit, on veut dire toutes les étapes depuis l'extraction des matières premières à leur transformation, à leur assemblage, l'utilisation, même la fin de vie considérée. Puis, à chacune de ces étapes-là, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui rentre. Qu'est-ce qui sort en termes de matériaux, d'énergie, de substances, de ressources?
Oui.
Qu'est-ce qui est rejeté vers l'air, vers l'eau, vers le sol? Donc, c'est quoi les émissions, les déchets? Puis, on va faire une espèce de bilan de tout ce cycle de vie. Qu'est-ce qui est entré? Qu'est-ce qui est sorti?
Wow.
Puis, à l'aide de nos modèles d'impact, on va convertir ces informations-là en score d'impact potentiel en lien avec... Oh, plein de catégories d'impact en lien avec l'oxydation photochimique, l'écotoxicité aquatique, l'occupation des terres, etc. Mais qui, en gros, sont en lien avec des dommages pour soit la santé humaine, soit la santé des écosystèmes, soit les ressources, l'utilisation des ressources ou les changements climatiques.
Oui.
Puis, de tout ça, ce qu'on ressort, bien, c'est un portrait qui permet de comparer, par exemple, des produits entre eux, lequel est plus durable qu'un autre. Ça permet d'identifier c'est quoi les principaux contributeurs à l'empreinte, donc c'est quoi leur nature, puis aussi c'est quel matériau, c'est quelle étape qui contribue le plus à l'empreinte. Puis ça, ça donne des idées sur comment on pourrait améliorer les produits, améliorer les services,
oui.
Repenser à notre façon de faire.
Merci beaucoup, Sarah. Et puis, bon, ben, je prends la balle au bon, puisque vous avez parlé de changement climatique, on parlait de transition énergétique et puis de en même temps de l'impact environnemental, modélisation. D'abord, on commence par la transition énergétique. Dans vos recherches, là, qu'est-ce que vous apportez là-dedans?
Ouais, ben, en ce moment, dans la transition énergétique qui nous guette, qu'on doit faire.
Voilà, alors, en gros, je voulais dire, bon, les thématiques, j'ai passé beaucoup de temps sur votre site. Hein.
Ouais,
faut aller chercher tout ce que vous faites, les machins. Les thématiques de recherche concernant la transition énergétique.
Oui, tout à fait. On regarde beaucoup c'est quoi les différentes options, en fait, pour faire la transition énergétique.
Oui.
C'est quoi aussi en fonction du niveau de maturité des technologies, en fonction de leur coût, en fonction de toute la trajectoire qu'on souhaite avoir vers un 2030-2050 carbone neutre. Bien, c'est quoi les différents choix qu'on veut prendre? Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui émergent, notamment en termes de biomasse.
Oui.
Donc, vraiment, notre travail, c'est vraiment de faire un peu une évaluation, de voir comment se comparent ces différents bouquets énergétiques, puis finalement, à moyen, à court terme et à long terme, vers quoi est-ce qu'on peut orienter nos investissements pour la meilleure transition énergétique possible.
Wow. On va terminer avec la modélisation de l'impact environnemental. C'est un de nos sujets de prédilection ici, à cette émission.
OK.
Oui. C'est quoi la recherche? Les thématiques là-bas, c'est augmenter la confiance, améliorer la cohérence entre les modèles caractéristiques des différentes catégories de l'impact. Et ainsi de suite, parlez-nous un petit résumé sur ça.
Oui. En fait, dans la modélisation, ce qu'on travaille, c'est vraiment, premièrement, à améliorer nos modèles d'impact. Donc, est-ce que vraiment notre façon d'évaluer que tel usage de tel matériau, telle substance est égal à tel impact, est-ce que c'est précis, est-ce que c'est pas précis, est-ce qu'il faut penser à une régionalisation de ces impacts-là, parce que ce qui est émis au Canada versus ce qui est émis en Inde, peut-être vu l'environnement général, cause pas le même impact. Donc, il y a tout ce travail sur la modélisation des impacts en tant que tel. Il y a aussi un travail à faire, à voir comment on peut améliorer nos inventaires. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer notre connaissance des différentes matières, substances nécessaires à produire différents produits. Puis ça, il y a beaucoup de façons de le faire. Puis il y a beaucoup de données qui sont à notre disposition pour essayer de croiser les informations qu'on a en ce moment pour permettre à nouveau d'arriver à une plus grande précision par rapport à ça.
Wow. Vous et votre équipe, là, je vous dis bravo, merci. Est-ce que, je ne sais pas, c'est pas les projets qui vous manquent, hein, vous avez...
Effectivement.
Alors, un dernier mot sur les 20 ans.
Oui, un dernier mot sur les 20 ans. On veut d'abord remercier tous les gens qui ont fait part de collaboration avec nous, qui ont aussi mis leur confiance en nous dans les dernières 20 années.
Oui.
Puis aussi, notre 20 ans, c'est une célébration du passé, mais on veut vraiment la vivre comme une célébration du futur, parce qu'en 2022, on va démarrer plusieurs projets, entre autres des chaires de recherche vraiment axées sur la question de la transition énergétique, vraiment axées sur la question de la consommation durable. Donc, ce que je dirais, c'est que on célèbre nos 20 ans, mais on a encore un 20 ans et plus devant nous, encore de travail vraiment excitant, puis plein d'idées dans la tête encore.
Oh, ouais. Est-ce que vous prenez des dons?
Écoutez, oui, on prend les dons.
Ah, d'accord.
On a, absolument.
S'il y a des Samaritains qui nous écoutent.
Voilà, j'ai délié les cordons.
Oui.
On est toujours preneurs. Oui, effectivement. Puis on est preneurs aussi dans un contexte où c'est sûr que le travail qu'on fait, c'est avec une équipe d'experts qui coûte quelque chose, bien sûr. Notre expertise a une valeur sur le marché.
Oui.
On fait beaucoup de travaux pour des entreprises, des gouvernements. Donc, des entités qui, ultimement, peuvent financer ce travail-là. Mmh. Puis quelque chose qu'on veut essayer de mettre un peu plus à l'avant, c'est faire plus de travail pour justement puis faire des montages financiers qui permettent aussi de travailler avec des entités qui ont peut-être moins de moyens, oui. mais des besoins tout aussi criants.
OK. Merci beaucoup à vous. Sarah Russo-Garrido, directrice exécutive, professeure associée et coordonnatrice de l'analyse sociale. Oui. Je vous dis bon vent avec votre... Je vais vous réinviter pour venir parler des formations que vous donnez, vous et votre...
Ah, avec plaisir, avec plaisir.
Bonne année, une fois encore à vous, à vos proches et à bientôt.
Parfait, je vous remercie.
Merci à vous, au revoir.
Merci, au revoir. Oui.
Avec la complicité de DJ Tira Hamba. Voilà, merci à toi Nicolas. On se retrouve demain. Et on dit merci à notre invitée, Sarah, bien sûr, Russo-Garrido, directrice exécutive, professeure associée et coordonnatrice de l'analyse sociale. C'est les 20 ans. Allez-y sur le site CIRAIG.org. Org, bien sûr. Vous allez avoir toutes les infos là-bas. Comme je lui ai dit, je vais la réinviter pour venir parler des formations qui se donnent en ligne ou bien en présentiel, bon, avec la pandémie. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de votre fidélité. Et on se retrouve demain sur les ondes de Canal M. Et sur ce, je vous dis ciao.